Jeu renversé, Breton Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard pour le toucher. On sort notre jeu truqué avec 21 secondes à faire. Le Rouge et Or prend les devants.
Oh, que de souvenirs quand on entend cet extrait-là. On va jaser avec l'analyste maintenant au match de TVA Sport, Charles-Antoine Sinotte, qui nous joint au téléphone. Salut Charles-Antoine.
Salut Dan, en forme.
Ça va bien, toi?
Vraiment très bien. Gros, gros week-end de sport, vous autres, à Québec.
Nous autres, on a de la boxe, en plus d'avoir le match du Rouge et Or dimanche. Mais il y a du sport aux quatre coins de la planète. Il y en a à Vegas, il y a la Ligue nationale. Il y a quatre matchs de baseball aujourd'hui pour les troupeaux de baseball. C'est les séries qui sont commencées avec un Red Sox-Yankees, évidemment, à 19h30. On peut pas se plaindre. Mais pour le match qui t'intéresse particulièrement, celui de dimanche ici, c'est une seule visite par année, les Carabins contre le Rouge et Or. Est-ce que le 12-7, du 8 septembre à Montréal peut être reproduit ou tu t'attends un peu plus de points?
Ce match-là est extrêmement dur à prévoir. Si on regarde ce qui se passe depuis, on va dire, 4 ans, c'est clair que le match défensif, le match à l'intérieur d'une possession, le match qui se décide sur la dernière série doit être anticipé. Le seul bémol que je vais mettre d'un point de vue offensif, c'est que moi, à partir de ce match-là, la victoire de 12-7, les deux attaques ont débloqué. À Québec, Hugo Richard est hallucinant. On va y revenir tantôt, mais pour moi, il joue et de loin le meilleur football de sa carrière. À Montréal, souvenez-vous, la première demi des Carabins avait été initiée par Gabriel Archambault au poste de quart. Ça avait été atroce, atroce, atroce. Oui. Deuxième demi, Dimitri Morin, qui est le corps arrière recruté il y a 2 ans avec Saint-Jean, l'avenir de l'équipe. On le met dans la mêlée. Et là, l'attaque s'était activée. Et depuis, écoute, les Carabins ont gagné leurs 2 matchs suivants, combinés par 113 points, pendant que Laval, eux, marquait 97 points de plus que leurs 2 adversaires subséquents. Donc là, les attaques sont à plein régime. On court avec le ballon. On a des menaces au poste de receveur. Peut-être que ça va être défensif, parce que c'est tout le temps défensif. Mais là, les attaques sont alignées.
Je comprends très bien ton analyse, mais en même temps, Charles-Antoine, tu sais encore plus que moi que c'est dans les matchs contre les Carabins, et pour les Carabins, c'est dans les matchs contre les Rouges et Or, contre le Rouge et Or, qu'on est capable d'évaluer si notre attaque ou notre défensive est à point. Est-ce que c'est inquiétant, dans le match du 8 septembre, que le Rouge et Or ait dû recourir à 4 bottées de placement du botteur David Côté pour gagner le match?
Inquiétant, non, parce que c'est le genre... Tu sais, il y a une chose, là, dans ces matchs-là, les entraîneurs veulent pas gagner par 20, veulent pas marquer 35 points. Dans le meilleur des mondes, oui, mais tu dois gérer. Tu dois gérer la possession. Tu dois, puis j'aime pas les clichés, ça en est un, mais c'est tellement vrai dans ces rencontres-là, le fameux jeu d'échecs. Où est-ce que c'est pas la fin du monde si tu complètes pas ta série offensive? L'important, c'est que tu repousses l'adversaire, que tu places ton botté de dégagement près des lignes de côté, que tu neutralises le retour. T'sais, on se renvoie la balle, on s'étudie, on prend pas de risques. Donc, en prenant moins de risques, on est plus conservateur, les botteurs deviennent essentiels. Puis tu fais bien de mentionner le rôle de ces botteurs-là, parce que des deux côtés, là, c'est du bonbon. Donc moi, je serais pas inquiet de voir ça, parce qu'on le sait que David Côté, c'est un automatique. Sauf erreur, le botteur de placement du Rouge et Or n'a pas manqué un seul placement depuis le début de la saison. Celui des Carabins en a manqué un seul. Fait que non, c'est pas une question de résultat. Le Rouge et Or, écoute, étudiait l'adversaire, se positionnait dans les bons moments, prenait pas trop de risques. Ça a donné une victoire, dans le fond. Puis cette victoire-là, ben, fait en sorte que le Rouge et Or est en bien meilleure posture là, à l'approche du match du dimanche.
OK, tu disais, tantôt tu donnais des statistiques sur les matchs qui ont suivi, évidemment, outrageusement dominés par les Carabins et le Rouge et Or. Et pour Hugo Richard, qui en est une dernière année avec le Rouge et Or, c'est un peu moins surprenant. Par contre, pour le jeune Dimitri Morin, moi je l'ai adoré, je le connaissais pas personnellement, je l'ai adoré dans le match du 8 septembre dernier à Montréal. Je trouve que les Carabins, demain, s'amène ici avec un corps qui, on dirait, je ne sais pas s'il est conscient du danger, mais on dirait qu'il a l'air du kid qui se retrouve dans un gros match sans trop savoir l'importance du gros match. Il connaît l'importance, tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme si il y a des athlètes comme ça qui se retrouvent dans des situations où on est plus stressé qu'ils ont l'air stressés.
Le gars est né pour être corps arrière. Jusqu'à un certain point, Hugo Richard aussi. Mais Hugo Richard a dû, pendant son stage universitaire, se battre un peu contre lui-même, se battre contre sa tête, se battre contre ses émotions. C'est un gars qui est tellement intense que ça le sert très bien quand cette intensité-là est canalisée. On le voit là depuis 2 ans, il s'est retrouvé. Dimitri Morin, c'est pas tout à fait le même genre de personnalité. C'est un gars très, très relax, très laid-back, un peu plus souriant, un peu plus easy-going. C'est deux styles de personnalité, puis je suis loin de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Mais, justement, quand il y a beaucoup de pression, Dimitri Morin, lui, semble être dans son élément. Pour vous le mettre en contexte, c'est un gars qui a joué avec les Géants de Saint-Jean. Il a débuté en 2e division collégiale et a tout cassé. C'était le joueur par excellence. Si bien que son équipe, dans les rangs collégiaux, a fait une progression jusqu'en 1e division collégiale. Puis vous le savez, à Québec, vous avez des équipes qui dominent dans cette division-là. Le niveau de jeu est à un autre niveau. Puis Dimitri Morin est passé de joueur par excellence la 2e division. L'année suivante, il était joueur par excellence la 1e division. Il en a gagné des gros matchs contre des gros joueurs. Puis là, ces gros joueurs-là, bien, ont gradué avec lui. Fait qu'il les affronte à nouveau dans les rangs universitaires, puis il les a déjà vus. Puis ce que je trouve qu'il fait de mieux, tu sais, quand on parle de pression au football ou dans n'importe quel sport, il faut que tu partages cette passion, cette intensité-là, cette pression-là, puis tu mettes en valeur tes meilleurs joueurs. Tu t'enlèves du poids sur tes épaules. Puis depuis qu'il est en poste, on revoit le Régis Sibassou, le receveur des Carabins, d'il y a 3 ans. Tu sais, Régis Sibassou, le numéro 3, puis oui. Louis-Mathieu Normandin, ils sont arrivés dans le sport universitaire, puis on a dit, waouh, ces gars-là, ils vont être dominants pendant 5 ans, mais ils ont une baisse de régime à leur 2e, 3e année. Et là, c'est comme si Dimitri Morin lui avait compris que, hey, il y avait des chevaux à côté de lui, il fallait les nourrir, c'est ce qu'il fait depuis 3 semaines maintenant.
Charles-Antoine, j'ai l'impression que si je te demandais, est-ce que le match de demain peut être un indicatif pour le match de la Coupe d'Andimore, tu me dirais, ben non, pas vraiment, ça va être autre chose, puis il va avoir un enjeu différent. J'ai l'impression que les matchs Roger-Carabin, depuis 4 ans, si on sortait les pointages de ces matchs-là, on se rendrait compte, genre, que 92% des matchs se sont soldés par un pointage de 4 points au moins d'écart, mais que d'un match à l'autre, il n'y a comme pas de lien. C'est comme si on recommence tout le temps à zéro, mais ça finit toujours serré.
T'as tellement raison, puis je vais te ramener à l'année passée pour te dire à quel point je ne sais pas ce qui va se passer dimanche, puis je le sais encore moins ce qui va se passer à la Coupe d'Andimore. L'an passé, là, à pareille date ou presque, là, mettons dans le 2e duel Montréal-Laval, c'était le 21 octobre l'année passée en fait, c'était à Québec. Laval avait dominé les Carabins 22-0. On n'avait pas vu ça souvent. Là, c'était le Rouge et Or qui était favori à la Coupe d'Andimore. Coupe d'Andimore à Québec, le Rouge et Or domine la 1e demi. On se dit, oh, OK, là, c'est réglé d'avance. Regarde, j'ai les statistiques devant moi. Là, l'an passé, la Coupe d'Andimore, c'était 22-11 à la mi-temps. Avec les Carabins, écoute ça, c'est un scénario improbable. Il y avait eu 3 bottes-court. Tu sais, on reprenait bottes-court après bottes-court après bottes-court en fin de match. Les Carabins ne sont jamais morts dans ce match-là. Fait qu'il n'y a rien qui indique ce qui va se passer à la Coupe d'Andimore. C'est la beauté. Puis là, en ce moment, on en a besoin de matchs de fous parce que le football collégial, le football universitaire, si on regarde aux États-Unis, la beauté de la chose, là, c'est d'être témoin d'histoire. Puis là, on l'est un petit peu moins par les temps qui courent dans le football universitaire, sauf dans les matchs Montréal-Laval, sauf à la Coupe d'Andimore. Je ne sais pas, dans le fond, ce qui va se passer. Puis ça, finalement, ben, c'est ce qui nous permet de voir un spectacle incomparable lorsque ces deux puissances s'affrontent.
Est-ce qu'au fil des ans, les vétérans des Carabins ont réussi à enseigner aux jeunes joueurs que c'est différent de jouer à Québec, mais c'est pas si intimidant que ça?
C'est clair. T'sais, dans le fond, là, dans un match comme ça, là, il va y en avoir quelques-uns là, qui vont être partants au Sepsum pour la première fois. T'en parlais d'un, Dimitri Morel, corps arrière. Vous avez peut-être vu dans le Journal de Québec un article ce matin de Richard Boutin qui fait une grosse job, là, honnêtement, de vous faire découvrir le football universitaire. Un article sur Asnel Robot, le porteur de ballon des Carabins. En ce moment, là, il domine le circuit universitaire. C'est un Français qui a passé par Thetford Mines. Vous avez un coach français avec le Rouge et Or aussi, Cédric Cotard, l'entraîneur des secondaires. Oui. Ben, lui, il s'occupe également l'équipe de Marseille en France. C'est de là que vient Asnel Robot. Donc, lui, il va être partant pour la première fois au PEPS. C'est sûr que les premières minutes, les premières séries sont impressionnantes, même parfois intimidantes. Mais c'est les autres gars qui ont déjà joué là, les Régis Tibassou, les Louis-Mathieu Normandin, Arely Mala, le frère de l'autre, qui doivent transmettre leur calme, qui doivent aller justement faire un gros jeu et regarder leurs jeunes coéquipiers et leur dire, regardez là, il y a autant de lignes sur le terrain, ça reste la même chose. Oui, il va y avoir 16, 17 000 personnes, mais on joue au ballon, il faut avoir du plaisir. C'est pour ça que les premières minutes de ces duels sont quand même importantes.
Hugo Richard a un très bon bras. Mais j'ai trouvé, puis évidemment, loin de moi l'idée de vouloir challenger les décisions de Justin Étier, mais j'ai trouvé qu'on était allé beaucoup au sol dans le match au Sepsum. C'est normal?
Ben, justement, la transition pour moi, c'est faite là. C'est faite dans ce match-là. On est allé au sol, on a été passif, comme je disais tantôt, on a été cérébral, on a étudié la game, on a des bons porteurs de ballon avec le Rouge et Or. Et depuis, là, on a évolué avec le jeu au sol. Moi, je vois un match comme je vois une saison, d'un point de vue stratégie offensive. Tu places tes cartes au début, tu fais des choses plus basiques, puis je suis pas en train de dire que le jeu au sol, c'est basique, là, mais je veux dire des choses qui te permettent de comprendre ce que l'adversaire fait en réaction à ton jeu au sol. Tu places tes affaires, et ensuite, c'est là que tu ajoutes une couche, et une deuxième, et une troisième. Pour moi, ce que Justin Étier fait de mieux, c'est la progression d'un match à l'autre et c'est d'amener une petite subtilité. Souvent, là, la subtilité, vous allez le voir avec l'émotion. Regardez dimanche, en début de rencontre, là, qu'est-ce qui est la constante dans l'émotion des receveurs? Souvent, là, Justin va aborder un grand match avec une nouvelle motion. Donc, ça peut être deux des receveurs à gauche qui transfèrent à droite puis qui changent de direction pour se replacer dans leur position initiale avant le début du jeu. Là, je généralise, là, mais ça... Justement, ça va être fait pour voir tout dans la rencontre. Hey, on avait montré un mouvement dans le passé. Là, si on le modifie un peu, comment la défense va s'adapter? Et pourquoi je te parle de ça? Ben, c'est quand il fait ça, non seulement lui prend de l'information, mais Hugo Richard va chercher de l'information. Et là, le livre de jeu devient beaucoup, beaucoup plus vaste. Vaste, puis c'est ce qui permet aux joueurs d'être tellement imprévisibles en attaque, d'utiliser 4, 5, 6, 7 receveurs de qualité. Pour moi, cette attaque-là, là, depuis deux semaines, est très, très belle à voir aller.
OK. Charles-Antoine, les auditeurs qui me connaissent, ça fait 9 ans que j'anime mon émission, ça fait 18 ans que je fais de la radio. Je ne suis pas du genre têteux, mais je veux quand même te féliciter pour le travail d'analyste que tu fais à TVA Sport pour le football universitaire. Moi, je ne connais pas le football autant que toi ou mon collègue Will ou d'autres. Puis quand je regarde un match, puis c'est toi qui l'analyse, tu es capable de me donner des portions du jeu que moi, j'avais pas vu. Puis je dis, ah ben oui, Colin, c'est ben trop vrai. C'est là que le jeu a complètement changé. Je fais un lien... une fois mon compliment mentionné à ton endroit, je fais un lien avec l'arbitrage. Moi, je suis pas capable de voir quand un jeu, une punition est appelée, si le gars a été indiscipliné ou si l'arbitre a peut-être échappé ou appelé un call qui aurait pas dû. Je trouve qu'on n'entend pas souvent parler de l'arbitrage au Québec au football universitaire et je déduis par ça que c'est une bonne nouvelle.
Je vais commencer par te remercier pour le compliment parce que c'est la mission que je me donne d'amener les gens à voir la game avec mes yeux, là, si tu veux. Puis surtout, à faire en sorte que les gens regardent pas le ballon. Parce qu'au foot, quand tu regardes le ballon, même à la télé, quand tu regardes un match et tu regardes le ballon, ben, tu vois pas grand-chose. Parce que le ballon va t'amener au jeu de toute façon. Fait que si tu peux regarder un peu plus la ligne à l'attaque, le départ des receveurs, etc., ça amène une autre dimension. Bon, maintenant que le compliment est évacué, je te dirais que, tu sais, on a pas. Puis en ce moment, ben, malheureusement, l'arbitrage est un petit peu trop lié au cas de la sécurité. L'année passée, on a fait des gros progrès quant à ça. Mais on a comme compensé. On est comme devenu tellement, je vais dire, prudent.
OK.
Un peu comme je le suis en ce moment dans mes commentaires.
Ouais.
Avec l'arbitrage.
Je comprends.
On s'est mis à vraiment vouloir là, être à l'avant-plan puis lancer des mouchoirs. Donc, il y a eu comme un déséquilibre de l'autre côté, à vouloir en faire un petit peu trop. Moi, dans le fond, j'ai moins de problèmes à en faire trop que pas en faire assez. Maintenant, c'est parce que l'évolution du sport aurait dû être faite avec l'évolution des arbitres et les êtres humains en soi. J'ai rien contre les arbitres qu'on a au Québec. Les gars, c'est des passionnés. Tu sais, il faut le dire, là. Oui, ils sont payés, mais ils se dédient quand même à la cause d'un sport universitaire. Le problème, c'est que, écoute, moi, je suis associé au football universitaire comme joueur, comme entraîneur, puis maintenant comme analyste, je vais dire, depuis 12 ans,
oui.
C'est vrai.
Oui.
C'est les mêmes 4 ou 5 arbitres en chef. Il n'y en a eu aucun, la relève, qui a percé pour venir officialiser un match universitaire. Puis on le sait, ça a été plus rapide, les gars sont plus gros, les règles ont changé, le souci de la sécurité a évolué. Moi, c'est un petit peu ça qui m'énerve dans ce dossier-là. C'est-à-dire, okay. Comment ça qu'on n'est pas capable d'en développer des jeunes? Regardez les entraîneurs. Les Carabins, là, vous allez voir, à part Danny Machocha, là, c'est tous des gars qu'on a vu jouer il y a 5-6 ans. Au Rouge et Or, c'est la même affaire. Un Guillaume Rioux, un Mathieu Bertrand, c'est des gars. Pourquoi les arbitres n'ont pas été capables de se former à la même vitesse? Fait que ça m'énerve. Puis parfois, ça fait en sorte que ben, on n'a pas suivi la game à la même vitesse que la game a été évoluée.
Mais il y a un problème de main-d'œuvre partout, même dans les arbitres universitaires.
Ouais, j'ai hâte de voir avec la CAQ maintenant si on va être capable ouais, d'en avoir suffisamment.
Exact. Un gros merci, Charles-Antoine, puis un bon match à toi dimanche.
C'est toujours un plaisir, Dan. Merci encore.
Merci à toi, c'est réciproque. Charles-Antoine Sinotte, l'excellent analyste football universitaire.